Voici la revue de presse de Stéphane Leneuf. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous. Et on commence par un anniversaire que Libération célèbre à sa une ce matin. C'est celui de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. 8 novembre 2016, 8 novembre 2017. Un an que c'est dur, titre Libé. Provocation, mensonge, 12 mois après son élection. Le président des États-Unis a confirmé toutes les craintes suscitées par sa victoire. Un an de couac pour Donald, poursuit Libé. Un président dont la cote de popularité est coincée autour de 35%, qui reste le président américain le plus détesté de l'histoire, écrit Frédéric Autran. Mais un chiffre qui occulte une autre réalité, Donald Trump séduit toujours 80% des républicains. Depuis un an, poursuit Frédéric Autran, Donald Trump n'a jamais changé de méthode de management, se délectant dans le chaos. Alors un an plus tard, quel bilan? Ses opposants se rassurent en se répétant que depuis son élection, il n'a pas fait grand-chose. Échec sur l'abrogation de l'Obamacare, réforme fiscale en retard, mur avec le Mexique qui progresse faiblement, car aucun financement n'a été voté par le Congrès, décret anti-immigration bloqué par la justice. Donald Trump se révélerait-il finalement plus inquiétant que dangereux ? Rien n'est moins sûr. Son détricotage des mesures environnementales n'augure rien de bon pour la planète, poursuit mon confrère de Libération. Pas plus que ses fanfaronnades sur l'Iran ou la Corée du Nord. Donald Trump, un an après, c'est donc un dossier à lire dans Libération ce matin. Libération qui est également retournée en Pennsylvanie, état traditionnellement démocrate, qui aurait voté à près de 49% pour Trump en 2016, une région désindustrialisée où le clivage entre pro et anti-Trump est toujours aussi marqué.
Dans la presse de ce samedi également, Stéphane, les États qui se rebiffent contre les géants du net.
Oui, diffusion de fausses informations, optimisation fiscale, la puissance grandissante et les méthodes de Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft commencent sérieusement à agacer les gouvernements, explique le Figaro. La bienveillance générale semble se terminer. Tous les géants du net ont en effet été malmenés cette semaine au Congrès américain qui les avait convoqués pour qu'ils s'expliquent sur la diffusion de fake news pendant la présidentielle américaine. Les parlementaires américains souhaiteraient en effet durcir la réglementation à leur encontre, car le monde politique américain, explique Pierre-Yves Dugas, commence à s'agacer de l'irresponsabilité des réseaux sociaux perméables à toutes les manipulations. Agacement également face à la position ultra-dominante des géants du numérique, de leur prise de liberté avec le droit du travail, comme chez Amazon, de la prépondérance de Facebook comme moyen de communication, mais aussi du pouvoir écrasant d'Apple sur les développeurs d'applications. Des critiques, certes, mais qui restent pour l'instant lettre morte, car aucune procédure n'a été lancée par les autorités antitrust américaines. Un dossier où vous découvrirez donc que c'est l'Europe qui est en pointe dans le combat contre l'évasion fiscale et les distorsions de concurrence. L'Europe n'a pas attendu les Américains pour sanctionner durement les GAFAM au portefeuille. Une offensive sur deux fronts, celui de la concurrence et de la fiscalité, avec des bons résultats, 2,5 milliards de dollars d'amende infligée à Google pour abus de position dominante, 250 millions d'euros d'amende pour Amazon pour avantages fiscaux illégaux. Il faut dire que les Européens ont fait leur compte et l'addition commence à être très lourde pour les budgets des États membres. Entre 2013 et 2015, l'optimisation fiscale des géants du net aurait privé les 27 de près de 6 milliards d'euros d'impôts. Presque une goutte d'eau pourtant par rapport à la capitalisation boursière des GAFAM. Elle est de 3 000 milliards de dollars, c'est un peu plus que le PIB de la Grande-Bretagne, un petit peu moins que celui de l'Allemagne.
Dans la presse ce matin également, la Catalogne, toujours à la une.
Oui, avec désormais un encombrant dossier judiciaire entre la Belgique et l'Espagne. Hier soir, la justice espagnole a lancé un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Carles Puigdemont et 4 de ses ministres. Ils sont toujours en Belgique. La question est désormais simple. La Belgique va-t-elle devoir remettre à l'Espagne Carles Puigdemont et ses 4 acolytes? Rien n'est moins sûr, explique Jean Quatremer dans Libération, car il n'y a aucune automaticité dans le mandat d'arrêt européen. En l'absence de toute violence, l'aspect politique des poursuites engagées par la justice espagnole, la gravité des peines encourues, pourrait convaincre les juges belges de ne pas donner suite aux demandes de Madrid. Le juge vérifie en effet que le délit ou le crime poursuivi existe bien entre les deux législations. Puigdemont de Monde et ses ministres sont poursuivis pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion. Or, si le détournement de fonds publics existe en droit belge, ce n'est pas le cas pour la sédition et la rébellion. Autrement dit, écrit Jean Quatremer, la justice belge pourrait difficilement remettre Puigdemont pour ces deux motifs. Elle peut en revanche limiter l'extradition au chef d'inculpation de détournement de fonds publics, mais dès lors, il serait impossible au juge espagnol de le juger pour sédition et rébellion.
C'était la revue de presse de Stéphane Leneuf. Merci Stéphane, et à demain pour vos revues de presse.